Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale comics de Star Trek pour les nuls, le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, je vais aborder le premier TPB de la nouvelle série régulière Star Trek, Boldly Go. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors, Star Trek Boldly Go prend place juste après le film Star Trek Beyond. Je ne vais pas vous le spoiler, simplement parce que nous allons probablement en parler prochainement avec les cadets. Sachez tout de même que l'équipage de l'Enterprise est séparé et réassigné sur plusieurs vaisseaux différents. Au scénario, vous savez qui, je vous laisse buzzer. Mike Johnson, bravo! C'est lui qui avait la série précédente, c'est lui qui avait toutes les autres séries, Star Trek, de près ou de loin, que ce soit les crossovers avec Green Lantern. J'ai pas vérifié, mais je suis sûr que le crossover avec la planète des singes, c'est Mike Johnson. Il est partout. Ça me saoule, mais c'est normal, il est partout. Au dessin, Tony Shachtin. C'est lui qui avait repris la série précédente après Stephen Monard, accompagné à la colorisation par Davide Mastrolonardo. Désolé pour mon accent italien. Ce numéro se découpe en trois parties, et ce sont trois parties très 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 différentes. La première partie est en quatre numéros. Pour rappel, un TPB a six numéros, six histoires à l'intérieur. Donc là, on a une première histoire en quatre numéros, en quatre parties. L'introduction de ce nouveau statu quo est vraiment, vraiment super cool. On retrouve chaque personnage dans son nouveau lieu de travail. Chaque personnage va avoir un temps pour son introduction. Vu qu'on a de nouvelles affectations, eh bien, on a de nouveaux personnages qui sont intrigants. Notamment, évidemment, l'officier romulienne Valas, qui est... elle est intrigante parce que, de toute façon, elle est tellement mise en avant qu'on sait qu'il va se passer quelque chose avec ce personnage. Et malheureusement, en fait, ce sera la seule développée. On avait la possibilité d'avoir 3-4 autres personnages qui pouvaient être intéressants, mais non, pas du tout. Ils ont 3 lignes de dialogue sur le TPB en entier. On a un super clin d'œil à Starfleet Academy, dont on a parlé récemment avec l'ami Dragor. Ils ont 2 cases et 2 lignes de dialogue, mais moi ça me fait chaud au cœur, j'aime bien, je suis content. Et on a une aberration, parce que on verra ce qui viendra après, mais c'est une apparition du capitaine Terrell, que l'on a vu dans Wrath of Khan. Comme amiral, à l'époque, amiral Terrell, la personne qui retourne son phaser contre lui pour se tuer sous le contrôle de la larve de Khan. Voilà. Comment ne surtout pas finir une phrase de manière très radiophonique. Bref, ça commence vraiment bien, sauf d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais débarquent les Borg. Les Borg. Mais pourquoi les Borg? Dès l'apparition des Borg, ça tourne au vinaigre. Très rapidement, en fait, on se retrouve dans une histoire qui n'a absolument plus rien d'exceptionnel. Les Borg sont hyper intéressants, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que dans cette époque, dans cette timeline, dans la Kelvin timeline, ils n'apportent absolument rien aussitôt. Qu'ils apparaissent à l'époque de Kirk et Spock, ça, en soi, c'est pas trop grave. Mais pourquoi là? Enfin, il y avait plein d'autres choses à raconter. On avait des possibilités énormes. Pourquoi est-ce qu'on fait revenir cet ennemi alors que... Je viens de dire que c'est pas grave, mais en soi, pourquoi on le fait revenir alors qu'il n'est pas contemporain? On a l'explication pourquoi ils sont là. Mais punaise, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait fonctionné. D'autant que l'histoire est trop centrée sur elle-même. On n'apprend pas à connaître les nouveaux personnages, 3 bulles de dialogue, et on passe à l'action. Donc, on a du mal à éprouver de l'empathie pour les personnages. Et punaise, mais qu'est-ce qu'ils font les Borg? Pourquoi est-ce qu'ils détruisent tout sur leur chemin? Ils sont supposés assimiler, ils le disent. Ils disent qu'ils sont là pour assimiler. Non, ils débarquent sur des planètes, ils détruisent tous les vaisseaux sur leur passage, ils détruisent les planètes. Punaise, ils détruisent toutes les espèces qu'ils croisent. Ils sont illogiques au sein même de l'histoire. Donc, à ce moment-là, déjà de ma lecture, j'en étais à peu près au deuxième numéro sur quatre. Je commence à faire péter mes nerfs optiques et d'un coup, je lis Assimilation de Spock incomplète. Sérieusement. Spock est capturé, les Borg essayent de l'assimiler. Ils n'arrivent pas à l'assimiler. Ils n'arrivent. Mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours déifier nos personnages? C'est l'opposé total de l'esprit trekkien. Ça rejoint mais totalement ce que disait Dragor lorsque nous parlions de Star Trek 2009. Pourquoi est-ce qu'on cherche à nous dire que malgré tous les événements, ces personnages sont censés se retrouver? Pourquoi est-ce qu'on les érige en super-héros? Pourquoi est-ce qu'ils sont au centre de l'univers? Pourquoi est-ce que des Borg, dont c'est la caractéristique principale d'être des assimilateurs d'espèces, est-ce qu'ils n'arrivent pas à assimiler un être croisé humain Vulcain? Les humains, ils les avaient déjà assimilés, les Vulcains, ils les avaient déjà assimilés, ils peuvent l'assimiler sans problème. Pourquoi? Ça m'énerve, ça m'énerve. Malgré. D'ailleurs, oui, non, pour continuer, pourquoi on est censé. Je perds mes mots tellement je m'énerve. Malgré les distances, malgré les affectations différentes pour tout le monde, hop, 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 tout le monde se retrouve sur le même vaisseau, chacun reprend sa petite place tranquille ou bilou. C'était quoi l'intérêt de les séparer tous si c'est pour le remettre ensemble dès le deuxième numéro? On part sur un super. Statu quo, un super nouveau statu quo. Dans les comics, pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans les comics, en fait, on a ce que l'on appelle, dans les séries longues et régulières, on a ce que l'on appelle un statu quo. Peter Parker, dans la série Spider-Man, est un loser célibataire qui galère. Même s'il y a des périodes. Bref, c'est son statu quo. Au début de chaque épisode et à la fin de chaque arc, à la fin de chaque histoire, il sera. Le loser célibataire qu'on a toujours connu. Et là, on commence un statu quo vachement intéressant. On se dit, tiens, il y avait des possibilités. On a Sulu qui part être number one sur un nouveau vaisseau. On se dit, punaise, c'est chouette, il va avoir droit de la visibilité, il va être développé. Non, 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 non. Kirk débarque et Sulu reprend un poste de pilote. Je grossis, enfin bref, ça m'énerve tellement. J'ai eu beaucoup de misère avec ce premier arc. Heureusement, par contre, le dessin est absolument topissime. Les Romiliens sont super beaux. Ils ont cherché des nouveaux designs pour leur tenue et je trouve que c'est vachement sympa. Les vaisseaux sont magnifiques et même les visages ne sont jamais ratés. C'est super. Bref, retour à l'histoire. À la fin de l'arc, Valas, l'officier romilienne dont je parlais au tout début, se retrouve dans une position vraiment très difficile, mais sa manière de la recevoir est dans l'esprit trekkien. Si le traitement majeur de cet arc est extrêmement maladroit, sa conclusion reste trekkienne. Kirk nous livre une petite réflexion à la fin. C'est lui qui a les dernières lignes de dialogue. Pareil, c'est des réflexions relativement trekkiennes. Il cherche toujours la paix. On trouve un Kirk d'ailleurs beaucoup plus mature. De toute façon, on retrouve le Kirk qu'on a vu dans le film Star Trek Beyond, qui est beaucoup plus mature, voilà, par rapport à Star Trek 2009 ou Into Darkness, ou même la série précédente où il était un petit peu bold, justement, un petit peu, hop, il allait au combat un peu trop facilement. Là, on a un Kirk plus réfléchi, plus nuancé. Bref, j'ai pas envie de rester longtemps sur cette première partie parce que c'est celle qui m'énerve. Et évidemment, c'est celle sur laquelle j'ai pris le plus de notes. C'est celle sur laquelle j'ai fait le plus longtemps. Deuxième partie. qui n'est composée que d'un seul numéro, qui est une origin story sur Jayla de Star Trek Beyond. Je déteste les origin stories. On est toujours en train de déifier les personnages. On n'a pas besoin de connaître tous ces trucs-là. Je n'ai rien à dire dessus, à part que c'est un tire-larme gratuit. C'est toujours aussi beau visuellement. Mais même pas d'ailleurs, parce qu'en fait, pour je ne sais quelle raison, on est soit dans le noir, soit dans un nuancé de gris. Ok, Jayla a une vie de marde. Elle a vraiment souffert tout le long de sa vie, machin. Donc on met une ambiance sombre pour nous investir émotionnellement. Ça m'agace les origin stories, ça ne m'intéresse pas, j'en ai marre de lire ce genre de truc, ça me saoule, je préfère Jayla qui me dit « Ouais, j'ai souffert dans le passé, mais aujourd'hui je botte des culs » à une Jayla qui pleure, et puis d'un coup qui sourit. Voilà. Troisième partie. Là, j'applaudis, je suis content. Troisième partie, également en un seul numéro, le 6e/6. On reprend l'histoire quelques semaines après les événements de la première partie. Le dessin est extrêmement bon et il est fait par Chris Mooneyham qui a travaillé sur Five Ghosts, une série image qui a fait un petit peu parler d'elle, puis sur des titres comme Prometheus, l'adaptation en comic du film, Predator, Planet of the Apes, etc., etc. Très différent, plus libre, beaucoup moins photoréaliste, ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment... un dessin que j'aime beaucoup, ce mec d'ailleurs, s'il pouvait lâcher les licences, je pense qu'il pourrait s'éclater en faisant j'ai perdu le nom, je cherche dans ma bibliothèque, comment il s'appelle ce Hellblazer, John Constantine, colorisé par J.D. Mettler, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Très, 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 très bonne histoire. On se débride enfin. C'est frais, c'est beau, c'est rempli de positivisme et d'amour. Je pense que cette aventure est très largement inspirée d'un épisode de Next Generation dont j'ai totalement oublié le nom. J'ai fait quelques recherches, j'ai pas réussi à le retrouver. Il me semble que c'est dans la première saison, mais vous me direz dans les commentaires si je me trompe, dans lequel l'équipage découvre... J'attends que les cloches sonnent. Donc voilà, les cloches ont fini de sonner. Donc il me semble que c'est dans la première saison, comme je disais, vous me direz si je me trompe, dans lequel... Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc il me semble que c'est dans la première saison dans lequel l'équipage découvre une nouvelle espèce très développée. Ce sont des humanoïdes dorés qui brillent, ils sont capables d'aller dans l'espace. Ils deviennent invisibles, il me semble aussi. Enfin bref, je me rappelle plus les tenants et aboutissants. C'est la meilleure histoire que l'on a eue depuis que j'ai commencé à lire les comics Star Trek. Incluant, je vous l'ai déjà dit, que j'aimais énormément Star Trek Starfleet Academy, que ce soit la série de 98 ou la série de 2018, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, y compris le crossover avec Green Lantern, la première partie qui m'avait énormément plu. Bref, là, on a vraiment une histoire extrêmement trekkienne. Les personnages sont intelligents. On n'a pas de fanservice à tout va. Ça transpire l'esprit trekkien. Ce fameux esprit trekkien que je n'arrête pas de ramener à la sauce à tous les épisodes. Si vous ne voyez pas ce que c'est, procurez-vous Star Trek Bod Lego partie 6 ou le TPB numéro 1 et lisez uniquement la partie 6. C'est du Star Trek. Voilà. À elle toute seule, donc cette troisième partie m'a suffi. Mais c'est pas possible, toutes ces cloches. Qu'est-ce qui se passe? Alors, petit conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans le podcast, n'enregistrez jamais en été, en plein mois de juillet, quand il fait 38 degrés, la fenêtre ouverte, si vous habitez à côté d'un clocher, comme je le vis actuellement. Alors, je ne sais même plus où j'en étais, je relis mes notes. Oui, voilà, donc cette série, à elle, tout, cet épisode-là, cette troisième partie... à elle toute seule, a réussi à me réconcilier avec la série. Et franchement, je vais aller acheter Star Trek Bold Lego TPB numéro 2 pour voir. Pour ce qui est de débuter les comics avec Bold Lego, je pense que si vous avez vu les trois films, ou du moins Star Trek Beyond, mais bon, si vous avez vu Beyond, j'espère que vous avez vu les deux précédents, parce que ça n'aurait aucun sens. Si vous avez apprécié ces films et que vous voulez vous lancer, oui, ça vaut le détour. Moins que Starfleet Starfleet Academy. Mais Starfleet Academy est une mini-série qui est terminée, alors on n'a pas le choix. Et puis, un petit détail, mais les couvertures sont magnifiques. Les couvertures ne reflètent pas le dessin intérieur. Mais bon, de toute façon, voilà, si vous aimez les graphiques nouvelles, si vous avez envie de vous lancer dans la BD Star Trek et que vous avez aimé les trois films, je pense que vous allez apprécier Bold Eagle plus que vous n'auriez apprécié la série précédente, je pense. Parce que la série précédente était quand même très ancrée dans l'hommage, la nostalgie. Ouais, elle était très ancrée dans la nostalgie, la mauvaise nostalgie. Et du coup, c'est pas. Je conseillerais plutôt Bold Eagle. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. C'était vraiment un enregistrement par-dessus la troisième jambe. Non, ça se dit pas. Par-dessus la troisième corde. c'était vraiment un enregistrement. Par-dessus la jambe, j'ai fait n'importe quoi, je suis vraiment désolé, j'espère que ça vous a quand même un petit peu diverti. Je vous souhaite une vie longue, prospère, détendue comme je le suis actuellement. À très bientôt, bisous, bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances, travaillez bien si vous travaillez, au revoir.
Star Trek pour les nuls.